Madame Moureau, professeure documentaliste au lycée Alain Fournier, organise un prix littéraire. Deux classes y participent avec leurs professeurs de français, la classe de 510 avec Magali Grélard et la classe de 502 avec Aurélie Antoine. Mais ce prix s'adresse aussi aux élèves qui souhaitent participer individuellement, ainsi qu'à tout le personnel du lycée. Dans ce prix, les livres en compétition sont « L'océan au bout du chemin » de l'écrivain Neil Gaiman, paru en Grande-Bretagne en 2013, « Le dernier lapon » d'Olivier Truc, paru en France en 2012. Il y a aussi le livre de Sylvia d'Avalon, « D'acier », paru en Italie en 2011, Zola Jackson de Gilles Leroy, qui est paru en France en 2011, et pour finir, Réparer les vivants de Maïlys de Kerangal en France en 2014.
Alors bonjour à tous, c'est la classe de 510 aujourd'hui sur Lafon Air et nous allons vous présenter le livre d'Acier de Sylvia Avalon en édition J'ai lu. Alors c'est l'histoire de deux jeunes filles, Anna et Francesca, qui habitent dans une ville industrielle, pauvre, au bord de la mer. Au début on parle de l'Italie, la Toscane, le soleil, mais derrière ce paysage, la réalité elle est bien moins attrayante, enfin une ville complètement industrialisée. Après l'auteur il a voulu montrer la dure réalité des classes sociales les plus pauvres. Et l'auteur arrive aussi bien à nous attacher au personnage qu'à nous le faire détester. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un livre très contrasté et que donc j'ai aimé. Lola, est-ce que tu veux bien prendre la parole ?
Comme l'a dit Baptiste, moi aussi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de contrastes. Donc il y a certains personnages qui sont pas toujours sympathiques au niveau de leur caractère, mais ça les rend quand même très attachants. On les voit évoluer au fil du livre, en fonction de chacun. Et j'ai trouvé que c'était un livre très émouvant sur l'histoire de ces deux jeunes filles, parce que on parle de plusieurs thèmes. C'est un roman social sur l'adolescence, sur le chômage et ses méfaits. Et on parle également de leurs rêves et la violence au sein d'une cité pauvre. Il y a aussi une brutalité permanente dans les relations entre eux. Et pourtant, l'écriture est plutôt dense, fluide, même si parfois certains passages sont un peu longs et c'est dans la longueur, mais c'est quand même agréable à lire.
Merci Lola. Élodie, si tu veux.
Comme l'a dit Lola, c'est un livre très intéressant, très émouvant. Il parle de plusieurs thèmes comme l'amour, la haine, l'amitié. Il y a eu des disputes entre Francesca et Anna qui, à cause de certaines histoires d'amour, comme quoi leurs pères sont partis, qu'elles n'étaient plus là pour elles. Anna a une relation amoureuse. Quant à Francesca, elle se prostitue. Enfin, c'est un livre très très intéressant.
Léonie ? Ou Flore, comme vous voulez.
Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant parce que on parle de plusieurs sujets tabous. Donc, par exemple, le père de Francesca qui la bat ou sa prostitution. Donc, c'est des sujets qui sont un peu sensibles. On n'en parle pas forcément. Et là, c'était bien mis en avant et c'était écrit de façon très réaliste. Et j'ai beaucoup aimé ça.
Léonie, si tu veux bien parler.
Alors moi j'ai trouvé que il y avait un certain charme dans le livre parce que on ne racontait pas simplement l'histoire des deux personnages principaux qui sont Anna et Francesca. On parlait aussi de l'histoire de leur mère, de leur père et de toute leur famille. Mais cependant j'ai trouvé que il y avait une inégalité pour les mères parce que par exemple, le fait que le père de Francesca il soit parti et que sa mère, elle n'ait rien fait. Elle aurait très bien pu faire quelque chose, mais les deux mères, elles restent dans leur cocon et elles n'ont aucun avis. Donc je trouve ça dommage parce que ça fait un point négatif au niveau de la femme sur l'expression.
Merci Léonie. Je trouve que vous avez beaucoup souligné le contraste entre quand même la plage, la ville industrielle et la vie de ces deux jeunes filles, parce que c'est quand même assez contrasté. Mais mis à part Léonie, je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé des autres personnages, enfin, les parents, par exemple le père, enfin, ou la mère.
Bah, enfin, comme a dit Léonie, le père de Francesca, il est parti, ce qui fait que bah, Francesca, elle est partie dans la prostitution. Elle a eu des problèmes parce que son père n'était plus là pour elle, pour s'occuper d'elle. Donc c'est vrai que ça fait quand même un point négatif pour elle. Et parce que du coup, elle est partie dans la prostitution.
Oui, je vois.
Je pense que c'est pas à cause de son père qu'elle est partie dans la prostitution. C'est plutôt à cause de la dispute où les deux filles... Et justement, elle s'est retrouvée perdue sans sa meilleure amie depuis toujours. Et à mon avis, elle s'est fait influencer. Du coup, elle est partie dans la prostitution.
Alors, globalement, ça a été un livre qui a été plutôt apprécié, d'après ce que j'ai compris. Et je pense que vous le recommandez à lire. Enfin, vous n'avez pas toujours été tous d'accord, même si vous l'avez tous aimé. Vous l'avez vu et vous l'avez lu sous plusieurs angles. Et du coup, je pense qu'il faut le lire pour se faire vraiment son propre avis. Et... Puis voilà, je vous dis à la prochaine.
Je vais vous présenter un extrait de D'acier, de Sylvia Avallone, reflétant parfaitement l'écriture, franche mais poétique, de l'auteur. Le paradis et la merde peuvent-ils porter le même nom? Les cristaux de neige, si rares en Marème, dessinent en hiéroglyphes son nom. Les Étrusques, secrètement, nommaient ainsi leur ville déifiée. Toutes les grands-mères du coin portaient comme prénom Ilva.
Donc bonjour à tous et à tous, c'est Romain Garciaré, votre animateur préféré, et je suis en compagnie de la classe 510 avec Luc Chamaillard.
Bonjour.
César Goud.
Bonjour.
Et Salomé Riffaut.
Bonjour.
Donc aujourd'hui nous allons parler du livre Le Dernier Lapon, qui a été écrit par Olivier Truc. C'est un roman policier qui a gagné plusieurs prix en 2013. Donc il a été édité par points. Donc c'est une histoire qui comporte des vols, des crimes, avec deux personnages principaux qui sont Clément et Nina, qui sont deux policiers. Ça se situe en Norvège, en Laponie centrale, et c'est après le vol d'un tambour soumis et le meurtre d'un lapon qui s'appelle Mathis. Donc c'est beaucoup de travail pour résoudre ces énigmes, mais je vais laisser la parole à mes acolytes pour donner leur avis. César ?
D'accord. C'est un livre tout d'abord assez original de par sa situation géographique en Norvège, en Laponie. C'est assez rare quand même d'avoir des romans sur cet endroit qui est quand même désert où il n'y habite que des lapons et une communauté très peu étendue. Ce livre se déroule sur l'histoire des éleveurs de rennes. C'est un métier assez dur, assez pauvre, où un éleveur, Mathis, se fait assassiner. Et Clément et Nina, de la police des rennes, essayent de résoudre ce meurtre qui est, au fil du temps, associé à un vol de tambour. Un tambour Sami, qui est le premier à revenir dans la région. Alors, ce tambour fait beaucoup de parler de lui, de par son vol et aussi de par son histoire. C'est un livre assez intéressant quand même, où on retient beaucoup d'expressions, un style d'écriture historique, avec des retours en arrière dès le début, parlant de cette communauté très peu parlée, où ils sont oubliés presque. Avec une expression que j'ai retenue, c'est de Clément qui dit « Demain, entre 11h14 et 11h41, Clément allait redevenir un homme avec une ombre. » Ça fait parler de la nuit polaire, là-haut, qui règne. Donc pendant toute la journée, il fait noir et... Au bout de 6 mois, revient le soleil, mais que pendant 40 minutes. Donc c'était une vie assez dure.
Salomé, vous êtes d'accord avec ce que
je suis tout à fait d'accord avec César. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Et Olivier Truc, l'auteur, est journaliste de formation. Et on ressent dans son livre enfin, on voit que c'est une écriture journalistique. Il a relevé des indices qu'il distille au fil du livre. Au début, j'ai trouvé ça assez improbable comme livre. Ça m'a fait presque rire parce que la police des rennes qui est chargée de régler les conflits entre éleveurs de rennes, j'ai trouvé ça assez amusant. J'ai assez vite déchanté en voyant la noirceur de l'histoire. Et moi, je me suis surtout attachée à Nina, la policière, qui veut s'imposer dans ce monde ultra dominé par les hommes. Et on soutient du coup ce petit bout de femme qui se bat contre le machisme qui règne en Laponie.
Et Luc ?
Je trouvais que c'était une histoire assez intéressante, donc avec plusieurs rebondissements, comme le vol du tambour et le meurtre. Et qu'on apprend finalement que c'est Mathis lui-même qui l'a volé finalement ce tambour, qui suscite pas mal d'intérêt pour les Lapons et toute la communauté alentour. De plus, comme l'a dit César et Salomé, l'histoire s'appuie aussi sur des faits historiques, du coup j'ai bien accroché. Donc j'ai trouvé l'histoire très intéressante avec plusieurs rebondissements, tels que le vol et le meurtre, qui font bien parler d'eux dans le livre. De plus, l'histoire s'appuie, comme l'a dit César et Salomé, sur des faits historiques. Et on visite aussi des lieux qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'attend pas à voir décrire, comme la toundra. Et c'est vraiment exceptionnel de voir ça dans un livre, dans un roman policier tel que celui-ci.
Donc finalement, c'est un livre qui vous a plutôt plu, avec du voyage, de l'énigme et du plaisir. Donc on va en conclure là-dessus. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à lire le livre d'Olivier Truc, Le Dernier Lapon.
Au revoir.
L'extrait que je vais vous lire est un extrait du roman d'Olivier Truc, Le Dernier Lapon. Ce roman a remporté le prix Quai du Polar 2013 et le prix Mystère de la Critique 2013. Le passage se situe au XVe siècle. Un lapon est poursuivi pour être jugé par des villageois. Ce passage raconte la disparition du dernier lapon persécuté par les villageois convertis au christianisme. 1693, Laponie centrale. Aslak trébucha, signe de fatigue. Normalement, c'est pas trouvé toujours. Le vieil homme n'avait pas lâché son paquet. Il roula sur lui-même. Le choc fut amorti par la couche de bruyère. Un lemming s'en échappa. Aslak se redressa. D'un coup d'œil derrière lui, il estima la distance de ses poursuivants. Les aboiements approchaient. Il lui restait peu de temps. Il reprit sa course silencieuse, le visage creusé et les pommettes rebondies lui donnaient un air mystique. Ses yeux étaient enflammés, ses pieds trouvaient à nouveau seuls la trace.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie du lycée Alain Fournier pour le prix littéraire avec la classe 510. Je vous présente Angus.
Bonjour.
Chloé.
Bonjour.
Victor.
Bonjour.
Romain. Lise.
Bonjour.
Et Maureen.
Bonjour.
Nous allons vous présenter L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, qui est apparu en 2014 par l'édition J'ai lu. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui semble vivre le deuil d'un enterrement. Il revient sur les lieux de son enfance, donc quand il avait 7 ans. Il se rappelle que son ancienne maison a été rasée et remplacée par des pavillons. Et sans se rendre compte, il se rend dans la ferme de ses voisins, les Hemstock. Assis sur le banc vert au bord de la petite mare, l'océan, comme l'appelait son ami à l'époque, il se remémore ce qu'il a sûrement été la période la plus noire de sa vie, donc le narrateur. Donc Victor, qu'est-ce que vous pensez de ce livre ?
Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que déjà, il est fantastique au cours de l'histoire, mais on s'en rend pas forcément compte au début. Enfin, au début, ça commence comme un roman, je dirais, normal. Et puis au cours de l'histoire, il y a vraiment le fantastique qui arrive. Puis j'ai trouvé aussi très intéressant l'effet du souvenir du narrateur. C'est vrai que c'est triste déjà au début par rapport à l'enterrement. Voilà, il revient sur les traces de son enfance. C'est un peu son instinct parce que je me rappelle un moment, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais il ne peut pas se contrôler en fait. C'est comme s'il allait vers cet endroit et qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Donc ça va lui rappeler toute son enfance. J'ai bien aimé.
Et Chloé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ?
Moi, j'ai trouvé en fait l'histoire très inhabituelle qui mêlait adroitement en fait le suspense et puis l'originalité. Le suspense, en fait, il y a la course-poursuite en fait entre le narrateur qui est alors enfant et puis Ursula Moncton au travers de la campagne, et on retient en fait son souffle tout au long de la course. Et puis son originalité du fait de l'âge des Hemstork en fait, que l'on ne peut pas vraiment deviner, et puis leur perception du monde et de sa création. Et moi j'ai aussi rigolé de temps en temps devant l'innocence en fait du petit narrateur. J'ai trouvé aussi l'histoire un petit peu triste par moments. On espère, on retient son souffle en fait jusqu'à la dernière page pour que la petite Letty revienne à la vie. Et puis elle est aussi déroutante. Est-ce qu'on sait vraiment si les deux mésaventures en fait des deux enfants se sont vraiment passées ou pas? Et donc tout ça en fait, j'ai trouvé l'histoire en fait très agréable.
Ensuite, Lise, qu'avez-vous pensé de ce livre?
J'ai bien aimé ce livre car l'histoire est intéressante et originale. Il y a beaucoup de suspense et l'atmosphère est assez mystérieuse.
Vous, Angus, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre ?
J'ai bien aimé la façon dont l'auteur Neil Gaiman a employé ses mots. C'était assez poétique dans sa façon de s'exprimer. Le livre était assez facile à lire. L'univers dans lequel Neil Gaiman nous plonge est assez féerique, assez fantastique, et l'histoire est bien tournée.
Romain, êtes-vous d'accord avec la façon dont l'auteur a écrit cette histoire ?
Donc moi, en fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Je trouve que le livre, il a une histoire prenante et qui ramène quand même à une certaine nostalgie de l'enfance. Il ramène à notre période, en fait, où quand on était plus petit, on pensait que tout était possible et magique. Et il apporte quand même, oui, sa touche de poésie, mais aussi de mélancolie. C'est un peu un livre qui est basé sur le thème du souvenir, et c'est vraiment ce qui m'a plu.
Enfin, Maureen, qu'avez-vous aimé ?
J'ai beaucoup aimé toute l'histoire, en fait. Je trouvais que le livre était plutôt intéressant dans le suspense qu'il y avait, dans le fait de découvrir des créatures pour la nourrice, que l'histoire était bien tournée et assez compréhensible.
Donc nous pouvons dire que ce livre mélange le fantastique et la nostalgie. Donc c'était L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman, de l'édition J'ai lu, apparu en 2014. Je vous remercie tous, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Le passage que je vais vous lire est un extrait du livre de Neil Gaiman qui s'intitule « L'océan au bout du chemin ». J'ai choisi la phrase où le narrateur commence à se souvenir de tout, car c'est le retour en enfance où on a commencé à idolâtrer les personnes, où on est en quelque sorte plus brillant mais aussi plus timide quand on parle avec les gens. J'ai trouvé le passage touchant avec Letty qui convainc le narrateur que le lac est en fait un océan. C'est très touchant. Tout cela m'est revenu. Et en même temps, ça me revenait. J'ai su que ça ne durerait pas longtemps. Toutes ces choses dont je me souvenais, assis sur le banc vert au bord de la petite mare, dont Letty Hemstock m'avait un jour convaincu qu'elle était un océan.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Réparer les vivants avec la classe de Alain Fournier, la 510.
Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve avec Camilla, Jade, Céline, Salomé et Kelly. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme de 19 ans nommé Simon Limbre. Celui-ci part faire du surf en pleine nuit avec ses amis. Sur le chemin du retour, leur van sort de la route. Simon est transporté à l'hôpital dans un état critique. Simon est alors en mort cérébrale. Plein de médecins sont à son chevet. Et ses organes vont voyager. Donc Camilla, qu'avez-vous pensé de ce livre ?
Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je trouve que le sujet, il est plutôt intéressant et assez rare dans la littérature. Et la problématique qui est abordée, elle est très intéressante. Elle pousse à la réflexion et au questionnement pour les jeunes ados. Parce que ça parle de dons d'organes. Et puis c'est plutôt intéressant et c'est au centre de notre vie.
Je suis tout à fait d'accord avec Camilla. C'est quelque chose qui nous pousse à nous demander ce qu'on ferait dans cette situation et ce qu'on voudrait qu'on nous fasse si on était à la place de Simon. Et moi, je voudrais insister surtout sur l'écriture de Maëlys de Kerangal, qui a une écriture assez poétique et qui nous berce vraiment tout au long du livre. C'est une sorte de mélancolie, un long fleuve triste et nostalgique. Par contre, le côté négatif que je pourrais trouver à cette écriture, c'est qu'on se perd un peu dans l'histoire. On a un peu de mal à se repérer parmi les différents points de vue au début du livre.
Et vous, Jade, êtes-vous d'accord avec ce côté négatif ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Salomé par rapport à ce qu'elle a dit et Camilla aussi. Et moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on pouvait facilement s'immerger dans la vie du personnel médical, que c'était très intriguant tout au long du récit, très passionnant.
Et alors, que pensez-vous des personnages, Kelly ?
Personnellement, j'ai eu un petit problème, franchement. Il s'agirait du personnage principal, parce que dans l'histoire, Simon Limbre est le personnage principal. Et je ne sais pas si je pourrais vraiment le considérer comme le personnage principal, car dans l'histoire, il est en état de mort cérébrale. Et les seuls moments où l'auteur l'évoque, c'est pour le décrire ou parler de son passé, en fait. Mais sinon, l'histoire en elle-même est bien construite.
D'accord. Et vous, Céline, pensez-vous la même chose ?
Moi, j'ai trouvé les personnages très attachants, surtout les parents, parce qu'ils ont perdu leur enfant et on leur demande de faire un don en très peu de temps, donc c'est très difficile pour quelqu'un, surtout des parents, de faire le deuil de leur enfant, de faire le choix à la place de leur enfant, de donner les organes et accepter le fait qu'il soit mort.
Très bien. Donc, Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, paru en 2014 par les éditions Folio. Donc, un livre très émouvant, avec un sujet évidemment un peu ambigu, mais apparemment pas déplaisant. Bon, merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour à tous. Alors, vous êtes bien avec nous en direct sur La Fond Air avec les élèves de la classe de 510. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau roman. Ce roman est écrit par Gilles Leroy, édité en Folio en 2010. Son titre est Zola Jackson. C'est l'histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan Katrina. Alors, c'est l'histoire d'une vieille femme noire qui ne veut pas quitter sa maison où sont présents tous ses souvenirs, malgré les conséquences qui peut leur être fatales. Alors, la femme qui est donc Zola Jackson, le titre du roman, est une femme de caractère qui ne souhaite pas quitter son passé sous prétexte qu'il y a un ouragan. Voilà, donc je crois que j'en ai assez dit. Alors, je vais vous présenter mes camarades Océane, Mathéo, Mathilde, Maëlle et Lucie. Alors, je vous donne la parole. Qui souhaite commencer ?
J'ai trouvé que c'était un roman triste qui parlait du coup de deuil parce qu'elle parle de ses souvenirs avec des flashbacks qu'elle fait à certains moments du roman. Donc du coup, c'est un voyage spatio-temporel. C'est très fort et plein d'émotions parce qu'on suit l'histoire d'une femme qui est têtue, qui a un très fort caractère, mais qui est en même temps sensible et attachante parce qu'elle reste dans cette maison juste pour les souvenirs qu'elle y a avec son fils qui voilà est tout pour elle. On découvre d'ailleurs dans la suite, dans le roman, que ce fils est homosexuel et qu'elle a eu du mal à l'accepter. Je trouvais que c'était une écriture qui était simple mais accrochante, que c'était fluide, entraînant et hypnotisant. Le personnage est donc très attachant et que, oui, c'est une femme forte et voilà.
Moi, pour ce qui est de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un certain suspense parce qu'on ne sait pas tellement ce qui va arriver au personnage. On attend le dernier chapitre pour connaître ce qui va lui arriver. Pour ce qui est du personnage de Zola Jackson, elle est très attachante, elle est assez drôle. Je trouve que l'auteur il met vraiment en avant les sentiments du personnage. Et j'ai aussi trouvé attachante par le fait qu'elle met des sentiments sur sa maison et qu'elle est très têtue.
Très bien, merci. Ormaël.
Oui, moi aussi, je suis d'accord. C'était une histoire très émouvante, avec un petit peu que c'était drôle, quoi. Et puis, je l'ai trouvée très courageuse, Zoa Jackson, parce que elle tient à rester dans sa maison, alors que tout est fait pour qu'elle s'en aille, et non, elle tient à rester. C'était très bien.
Oui, Mathéo.
Je trouve aussi que l'histoire a fait réfléchir, parce qu'on se demande aussi ce qui se passerait, ce qu'on ferait si on était dans la même condition que cette femme.
Alors Mathilde, qu'avez-vous à nous dire ?
Moi, je vais dire comme mes camarades, hein. C'était un livre très attachant, qui était triste aussi, parce que, comme ils l'ont dit, on revoit les souvenirs qu'elle avait dans cette maison. Et par rapport au livre, moi je ne m'attends pas à lire un livre qui montre les conditions dans une tempête, ce qui va se passer et tout. Mais j'ai été contente d'avoir lu un livre comme ça parce que malgré ça, on voit quand même les détails. Même si on voit son histoire à elle, on voit plusieurs détails de ce qui peut se passer et tout. Et dans le livre, ils vont revenir sur des souvenirs qu'elle avait. Et de son fils aussi. Et en fait, c'est vraiment une femme attachante. Parce qu'elle s'attache même si son fils n'est plus là, elle continue à se souvenir de lui et elle s'accroche quand même à ça pour vraiment rester en vie.
Très bien, merci beaucoup. À vous, Lucie.
Moi, j'ai trouvé que c'était un livre très attachant où il est difficile de s'arrêter de lire. On s'attache très vite au personnage de Zola Jackson. Les souvenirs auxquels elle est très attachée, on voit qu'elle a une bonne mémoire et qu'elle risque pas de les oublier.
Très bien, merci à tous. Alors, j'en conclus que tous les arguments que vous m'avez donnés sont tous favorables. Je vous remercie et voilà, à la prochaine, merci beaucoup.
Le passage que je vais vous lire est tiré du roman Zola Jackson de Gilles Leroy. Ce passage se situe le dimanche 28 août 2005. Zola Jackson remarque alors l'état nerveux de sa chienne Lady à l'approche de l'ouragan. Dimanche 28 août 2005. Lady était trop nerveuse, qui tournait dans le jardin, encagée, gémissante. Jamais je ne l'avais vue si incohérente, cherchant du regard anxieux les azimuts perdus. Des vents contraires portaient à sa truffe pointée au ciel, trop d'informations pour son cerveau de chienne plus si jeune. Le neveu de Miss Anita tambourinait à la porte. J'ai d'abord ouvert la moustiquaire. Mademoiselle Jackson, il faut y aller maintenant. Il faut tout fermer et partir ce soir. C'est ce que j'ai entendu à la radio. Bientôt, il n'y aura plus d'électricité. Et quand la tempête arrivera, que deviendrez-vous ? J'ai survécu à l'ouragan, Betsy. Mon fils était encore au sein, malade. Et là, oui, j'ai eu peur. On a survécu tous les deux, tout seuls, dans notre gourbi. Mon fils pourvoira mon salut. Je l'attends. De temps de faire demi-tour sur l'autoroute d'Atlanta, il sera là.